Oui, merci pour lui. Oui. Bon, Thibault, bienvenue, c'est lui. Il a soutenu sa thèse, c'est novembre dernier ?
Novembre dernier, oui.
Oui, novembre dernier. Il n'a pas eu de chance. Il avait comme directeur de thèse, un de ses directeurs de thèse, c'était votre serviteur, donc ça, c'était peut-être pas bien. Hein. Et il avait pour sujet de reconstruire l'endocrâne de Toumaï, ce qui était un travail absolument énorme, hein, énorme. Il a mis plus d'un an et demi, mais il va vous le raconter peut-être, il a mis plus d'un an et demi à reconstruire l'endocrâne de ce spécimen. Je vous disais qu'il a accepté de venir là. Il est en transit pour le moment. Cette année, il est à terre au Collège de France. Alors, à terre, oui. Attaché temporaire d'enseignement et de recherche au Collège de France. Et il va partir pour 2 ans en études postdoctorales à l'Université de Berkeley à San Diego. C'est-à-dire, c'est un joli coin, il a de la chance. Hein. San Diego, c'est pas mal, quoi. Tu ris, mais tu n'y as jamais été. Si ça se trouve, ça ne va pas être terrible. Hein. Bon, Thibault, c'est à toi.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à donner une conférence ici. C'est un grand plaisir pour moi. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui de paléoneurologie. Alors, qu'est-ce que c'est la paléoneurologie ? Eh bien, c'est l'étude des moulages endocraniens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un moulage endocranien ? Un moulage endocranien, c'est un moule de la cavité cérébrale, donc de l'intérieur du crâne, et ça reproduit la forme de l'encéphale. Et donc l'intérêt d'un moulage endocrânien, c'est que sur les fossiles dont on ne possède que les parties dures, donc c'est-à-dire l'os, et bien à partir du moulage interne de l'os crânien, on va pouvoir avoir des informations sur l'encéphale, qui lui est un tissu mou qui malheureusement ne se fossilise pas. Alors je vais commencer par vous faire un petit historique de la paléoneurologie. Cette science a été fondée, on peut dire, par Cuvier en 1804, puisque cette année-là, il a découvert dans les carrières de gypse de Montmartre un moulage endocrânien, et ça a été le premier qui, dans ce moulage endocrânien, a reconnu la forme d'un encéphale. Donc ce moulage endocrânien, c'était celui d'un anoplotherium. C'est l'animal que vous voyez en haut. Et l'anoplotherium, donc, c'est un ongulé fossile. Et ça, c'était en 1804. Et un petit peu après, il a étudié également des moulages endocrâniens, cette fois de paléotherium, qui est l'animal que vous voyez en dessous ici, qui, on pense, aujourd'hui est apparenté aux chevaux. Un autre scientifique de renom dans le domaine de la paléoneurologie, c'est Charles Marsh. Donc là, on est à la fin du 19e siècle. Et Charles Marsh, c'est le premier qui a abordé l'étude des moulages endocraniens, la paléoneurologie, d'un point de vue évolutif. Donc il a essayé, à travers l'étude des moulages endocraniens, de retracer une histoire de l'encéphale. Pour ça, il mettait des crânes, ici vous avez des crânes en vue supérieure, vue de dessus, il les mettait à la même échelle, à la même longueur, il dessinait en transparence le moulage endocrânien, et il a cru montrer qu'au cours du temps, donc en haut vous avez les plus anciens, en bas le plus récent, au cours du temps, il a cru montrer qu'on avait un accroissement du volume relatif de l'encéphale. C'est ce qu'on a appelé longtemps les lois de Marsh. Alors le problème, c'est que pour cela, il utilisait des formes non apparentées. Si vous voulez, le dinocéras ici n'est pas l'ancêtre du brontotherium, qui lui-même n'est pas l'ancêtre du cheval actuel. Donc ces lois ne sont plus valides aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est lui qui a le premier étudié les moulages endocraniens d'un point de vue évolutif. Donc son nom reste dans la paléoneurologie. Et Tilly Edinger, elle, est la véritable fondatrice de la paléoneurologie moderne, puisque en 1929, dans une publication très, très, très connue dans le domaine, elle a récapitulé tout ce qu'on savait à l'époque sur les moulages endocraniens. En 1948, elle a fait une autre publication très, très importante, une contribution majeure à la paléoneurologie, puisqu'elle a, elle a étudié l'évolution de l'encéphale chez les chevaux, les équidés, à travers les moulages endocraniens fossiles que l'on connaissait. Donc Tilly Edinger, c'est vraiment elle qui a fondé la paléoneurologie en tant que véritable science. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des différences qu'on observe entre un encéphale, ici à gauche, un encéphale humain, et ici à droite, un moulage endocranien. Vous voyez que c'est quand même pas tout à fait la même chose. Alors je vais vous expliquer pourquoi le moulage endocranien n'est pas identique à l'encéphale. Ici, vous voyez une coupe dans un crâne, et ici, donc, vous avez l'os crânien, constitué de trois couches, une table externe, une table interne, et entre les deux, une couche d'os moins compacte, un petit peu plus spongieux, qu'on appelle le diploé. Donc quand on prend un moulage endocrânien, quand on trouve un moulage endocrânien, donc c'est un moulage de cette table interne, cette table osseuse interne. Ici, vous avez l'encéphale. Et entre l'encéphale et l'os, vous avez une couche de méninge qui contient notamment des vaisseaux sanguins, qui sert à protéger l'encéphale. Et c'est ces méninges qui font que le moulage endocrânien est différent de l'encéphale, puisque quand on a un moulage endocrânien, ce qu'on obtient en réalité, c'est l'encéphale entouré de ces méninges. Alors le moulage endocrânien, bien sûr, va nous donner uniquement des informations sur la forme externe de l'encéphale. On ne peut pas avoir d'informations sur ce qui se passe dans l'encéphale chez un fossile. On va uniquement avoir des informations sur la morphologie externe. Il ne montre pas tous les détails de l'encéphale. On n'a pas tous ces sillons que vous voyez là. On ne les retrouve pas aussi nettement sur le moulage endocrânien. Bon, certains sillons vont laisser une empreinte plus marquée, comme celui-ci, là, que vous retrouvez ici. Mais la plupart ne sont pas très bien imprimés sur la table interne. Mais sur un moulage endocrânien, on va avoir des informations supplémentaires par rapport à un encéphale, puisqu'on va avoir des informations sur le réseau sanguin qui se trouve dans les méninges. Et donc ce réseau sanguin laisse son impression aussi sur la table osseuse interne. Donc sur un moulage endocrânien, ici, vous allez avoir toutes les petites ramifications que vous voyez là, sont des traces des vaisseaux sanguins, qu'on ne retrouve pas sur un encéphale. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle d'encéphale. Donc l'encéphale, qu'est-ce que c'est ? C'est constitué du cerveau, ici, et du cervelet, sous le cerveau. Le cerveau lui-même est constitué de deux hémisphères symétriques, et chaque hémisphère est composé de quatre lobes. À l'avant, vous avez le lobe frontal. Donc ici, c'est un cerveau en vue latérale. À l'avant, donc le lobe frontal. Le lobe frontal, c'est notamment quand on effectue un mouvement, c'est ce lobe qui est activé. Donc tout ce qui a trait à la motricité, ça se passe dans le lobe frontal. Et la partie la plus antérieure du lobe frontal, ici, est impliqué dans tout ce qui est cognition. Alors la cognition, c'est la capacité à raisonner, à juger, à planifier les actions futures, plein de choses comme ça. En arrière du lobe frontal, il y a le lobe pariétal, ici en rouge. Le lobe pariétal, il est activé notamment c'est ce qui s'active au niveau de la perception des sens généraux. Alors quand je dis sens généraux, c'est tout ce qui est toucher, douleur, température, pression, tout ce qu'on détecte comme ça, ça active les lobes pariétaux. Tout à l'arrière du cerveau, on a le lobe occipital, qui lui est activé lorsqu'on regarde quelque chose, c'est le sens de la vision qui active ce lobe. Et le lobe temporal, lui, est impliqué notamment dans tout ce qui est audition. Bon, là, c'est très simplifié, hein. Bien sûr, il y a beaucoup plus de... C'est beaucoup plus complexe que ça, on ne pourrait pas résumer. Chaque lobe a un sens particulier, hein. C'est plus compliqué. Le cervelet, lui, c'est tout ce qui est inconscient, donc notamment l'équilibre et la coordination des mouvements. Ce qui se passe dans le cervelet, on le perçoit pas consciemment, contrairement à tout ce qui se passe dans le cerveau, où par exemple, quand on touche quelque chose, ben, on sent quelque chose consciemment, et quand on veut bouger un bras, par exemple, et ben, c'est conscient aussi. Le cervelet, c'est inconscient. Et donc, comme l'encéphale, on va décomposer le moulage endocrânien en cerveau et cervelet, et ce qu'on appelle le cerveau sur le moulage endocrânien, on va aussi le décomposer en quatre lobes. Alors ici, les limites entre les lobes, ben, elles sont moins bien marquées que sur l'encéphale, mais on effectue quand même cette décomposition en quatre lobes parce que ça permet de se repérer d'un point de vue anatomique. Donc quand on va décrire un moulage endocrânien, bah, pour la partie la plus antérieure, on va dire c'est le lobe frontal. La partie postérieure, on va dire c'est le lobe occipital, etc. Ça permet de se repérer anatomiquement. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des différents types de moulage endocrânien qu'on peut retrouver chez les hominidés. Alors la première sorte de moulage endocrânien, ce sont les moulages naturels. Et ils se forment lors de la fossilisation. La cavité cérébrale, donc l'intérieur du crâne, se remplit de sédiments. Ce sédiment, il s'indure, il durcit. Et puis, parfois, l'os crânien va se détériorer, va disparaître, par exemple être dissous, être érodé. Et on va uniquement retrouver, fossilisé, le moulage endocrânien. Alors ce processus est quand même très rare chez les hominidés, puisque au total on possède seulement 9 moulages endocrâniens naturels d'hominidés. Il y en a 8 qui viennent d'Afrique du Sud. Donc les 7 là, ce sont des spécimens qui viennent de Sterkfontein et qui appartiennent à une espèce d'Australopithèque gracile, donc Australopithecus africanus. Il y a notamment à gauche, là, vous reconnaissez l'enfant de Tong, dont M. Brunet vous a parlé tout à l'heure, hein, celui-là. Si vous voulez, vous pourrez venir le voir à la fin. Et il y a un spécimen qui vient d'un autre site en Afrique du Sud, Swartkrans, qui là est un paranthrope, donc un australopithèque robuste. Et puis il y a un 9e spécimen qui a été trouvé assez récemment, c'est 2005, je crois, 2006, je ne sais plus. C'est le spécimen de Dikika. Donc c'est un spécimen éthiopien qui appartient à une autre espèce d'australopithèque, Australopithecus afarensis, d'Afrique de l'Est. L'année dernière, le découvreur de ce spécimen était venu faire une conférence ici, peut-être certains l'ont-ils vu. Et ce spécimen est daté à 3,3 millions. Actuellement, c'est le plus ancien moulage endocrânien d'hominidé, tout maille exclu, je vous en parlerai après, mais c'est le plus ancien moulage endocrânien d'hominidé qu'on connaisse. Et c'est un spécimen juvénile. Le deuxième type de moulage endocrânien, ce sont les moulages artificiels. Alors ceux-là, on va les effectuer directement à partir de matériel crânien fossile qu'on retrouve. Pour ça, on va injecter dans le crâne, soit par le foramen magnum, donc le trou qui est à la base du crâne, ou pour les crânes cassés, comme ici, par exemple, vous avez un crâne, on a seulement la moitié gauche du crâne, et ben, on va injecter de l'autre côté, on va injecter soit du silicone ou du latex, et on va retirer la pellicule de silicone ou de latex durci, et on va obtenir un moulage endocrânien artificiel. C'est ce que vous avez, par exemple, ici, c'est un moulage en latex. La personne que vous voyez ici, qui tient un moulage artificiel dans ses mains, c'est Ralph Holloway. C'est un des plus grands spécialistes internationaux paléoneurologie des hominidés. Et enfin, on peut faire maintenant, grâce aux techniques d'imagerie virtuelle, on peut faire des moulages endocrâniens virtuels. Donc pour ça, on scanne les crânes, on les passe dans un scanner à rayon X. On peut ensuite reconstituer virtuellement le crâne en 3D sur l'ordinateur. Et il faut s'imaginer que ce crâne-là, que vous voyez, ce crâne virtuel, il est composé de plein de petits cubes qu'on appelle des voxels. Quand vous avez par exemple une image, vous faites un zoom sur une image, vous allez voir des petits carrés, on appelle ça les pixels. Et ben, en trois dimensions, c'est la même chose, mais c'est des petits cubes, et on appelle ça des voxels. Et ce découpage du crâne en petits cubes fait qu'on va pouvoir naviguer dans le crâne d'avant en arrière, de haut en bas et de droite à gauche. Donc on va pouvoir faire des coupes dans ce crâne, des tranches, et on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ici, vous avez un exemple d'une coupe dans ce crâne. Donc c'est une coupe coronale, on appelle ça une coupe coronale, c'est une coupe comme ceci. Ici, vous avez le haut du crâne, ici le bas. Ce que vous voyez en blanc, ça correspond à l'os. Et ce que vous avez à l'intérieur en noir, c'est la cavité endocrânienne. Et c'est cette cavité dont on veut prendre le moulage pour obtenir le moulage endocrânien. Donc là, j'ai sélectionné cette cavité sur une coupe coronale. On peut faire ça sur toutes les coupes coronales et on va obtenir ici le moulage endocrânien virtuel de notre spécimen. Alors là, je l'ai fait sur un crâne actuel, mais vous pouvez faire ça de la même manière chez un spécimen fossile. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu plus précisément de ce qu'on observe chez les hominidés. Comment se passe l'évolution de l'encéphale chez les hominidés. Ici, je vous ai remis assez grossièrement l'arbre de l'évolution des hominidés. Alors, j'insiste bien, mais M. Brunet vous l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une lignée, on a vraiment quelque chose de buissonnant. Donc ici, vous avez pas beaucoup de, j'ai pas mis beaucoup de branches, parce que j'ai fait des gros regroupements de spécimens. Mais si on devait mettre tous les spécimens sur ce schéma, on aurait quelque chose de beaucoup plus de petites branches et beaucoup plus compliqué que cela. Et d'ailleurs, on ne connaît pas bien toutes les relations de parenté des spécimens d'hominidés les uns par rapport aux autres. Mais globalement, ici, c'est ce qu'on pense savoir de l'évolution des hominidés. Donc vous avez ici les Australopithèques graciles, qu'on appelle les Australopithèques graciles, qu'on trouve en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud et aussi maintenant en Afrique centrale. Et ces Australopithèques graciles sont à l'origine de deux groupes dont M. Brunet vous a parlé tout à l'heure. D'une part, les Australopithèques robustes, qu'on appelle aussi les paranthropes. Et d'autre part, tout ce qui est ici, qui est donc le genre Homo. Tout ce que je vous ai représenté ici, ce sont des moulages endocrâniens en vue latérale. Et ils sont tous à la même échelle. Et donc, ce qu'on peut voir ici tout de suite, c'est que dans le genre Homo, on a eu, depuis les premiers Homo jusqu'aux humains actuels, et au Néandertalien 6, on a eu une augmentation de la taille de l'encéphale. C'est la première chose qui saute aux yeux. Cette augmentation de taille qu'on trouve chez Homo, on ne la retrouve pas chez les Australopithèques robustes. Alors ici, celui-là paraît un petit peu plus gros que celui-là, mais je vous ai mis en dessous la variation de volume endocrânien, donc les variations de taille de l'encéphale. Et vous voyez que dans les deux groupes, on a des variations entre 400 et 550 cm3 pour la taille de l'encéphale. Donc les Australopithèques robustes n'ont pas un plus gros cerveau que leur groupe ancestral, les Australopithèques graciles. Et ce qui est intéressant, c'est que les Australopithèques robustes et les premiers Homo apparaissent à la même période, environ vers 2 millions et demi d'années. Et c'est une période de changement climatique. on passe à des environnements plus ouverts. Alors, pourquoi chez les uns, chez Homo, on a eu une augmentation de la taille de l'encéphale, et pourquoi chez les Australopithèques robustes, on ne retrouve pas cette augmentation de la taille de l'encéphale? Alors, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Donc là, c'est un graphe. Vous avez en abscisse l'âge. Ici, on est vers le plus ancien. Ici, on est vers le plus récent. Et en ordonnée, vous avez les capacités crâniennes, donc la taille de l'encéphale. Et tout ce qui est dans l'ellipse rouge, là, ce sont les individus du genre Homo. Et vous voyez nettement donc, qu'on a une augmentation du volume de l'encéphale, de la taille de l'encéphale chez Homo. Si maintenant, j'ajoute les paranthropes sur ce graphe, et ben là, vous voyez qu'on n'a pas d'augmentation de la taille de l'encéphale, on reste toujours au même niveau, entre 400 et 550 cm3. Donc, je vous disais, pourquoi cette différence entre Paranthropus et Homo, alors qu'ils vivaient dans des environnements relativement similaires, finalement, à la même époque? Eh bien, ces différences de taille de l'encéphale peuvent s'expliquer par des différences du drainage du sang à l'intérieur du crâne. Chez Paranthropus, chez les Australopithèques robustes, le sang est amené vers la veine jugulaire externe par ce qu'on appelle un système de sinus occipital marginal. Alors, qu'est-ce que c'est un système de sinus occipital marginal? Ben, ici, vous avez, ici, ce n'est pas un moulage endocrânien, c'est un crâne en vue, on le voit de dessus, un crâne en vue supérieure. Vous avez l'arrière du crâne qui se trouve là et l'avant du crâne qui se trouverait par là. On n'a qu'un morceau de crâne. Et on voit l'intérieur, donc l'intérieur de ce crâne, d'Australopithèque robuste. Ici, vous avez le foramen magnum. Et sur les bords du foramen magnum, ici et ici, vous avez deux dépressions, deux creux, qui sont les traces laissé par le sinus marginal. Donc le sinus marginal, bah, qu'est-ce que c'est finalement? C'est comme une grosse veine qui se trouvait dans les méninges et qui a laissé son empreinte dans l'os crânien. Ici et ici. Et ici, je vous montre la même chose. Donc toujours, c'est le même spécimen, mais cette fois, c'est le moulage endocrânien. Donc tout à l'heure, on voyait les deux dépressions là. Et ben maintenant, ce qu'on voit, c'est forcément ces deux bosses, hein, deux renflements, puisqu'on a pris le moulage de ces dépressions. Et ici, vous avez la même chose chez un homme moderne. Et vous voyez que là, par contre, on retrouve pas les deux bosses plutôt qu'on retrouvait ici, les deux sinus marginaux. Donc ces sinus marginaux, ben, on les retrouve uniquement chez les paranthropes, uniquement chez les Australopithèques robustes, pas chez Homo. Chez Homo, ce qu'on va retrouver, ce sont ce qu'on appelle des foramen émissaires. Alors des foramen émissaires, c'est des petits trous dans le crâne. Ici, vous avez un crâne actuel d'humain en vue supérieure. Ici, le même crâne en vue inférieure. Et vous voyez ici, là, en vue supérieure, vous avez deux petits trous, ici et ici. C'est ce qu'on appelle les foramen pariétaux. Et en vue inférieure, vous avez ici les foramen mastoïdiens. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des foramen émissaires. Et par ces foramen vont passer des veines émissaires. Et chez Homo, ce sont ces veines qui vont amener le sang de l'intérieur du crâne vers la veine jugulaire externe. Chez Paranthropus, on a les sinus occipital marginal. Chez Homo, on a des veines émissaires. Donc une différence dans le drainage crânien. Et ce qui est intéressant, c'est que chez Homo, eh ben, ces foramen émissaires vont aussi servir de passage à tout un ensemble de petits vaisseaux sanguins. Ici, vous avez une coupe dans l'os crânien. Là, vous avez l'os. Et là, on est à l'intérieur du crâne, donc entre l'os et le cerveau qui serait en dessous. Et tout ce que vous voyez en bleu, là, c'est plein de petits vaisseaux sanguins qui vont s'échapper ou entrer plutôt dans le crâne par les foramen émissaires. Et cet ensemble de petits vaisseaux sanguins, bah, ça va permettre de refroidir l'encéphale, puisque le sang va être refroidi à la surface du crâne par transpiration, et il va pouvoir pénétrer par les foramen émissaires à l'intérieur du crâne et former tout ce petit réseau de vaisseaux sanguins autour de l'encéphale pour amener du sang refroidi qui va donc refroidir l'encéphale. Et c'est important parce que les contraintes thermiques sont un frein à l'augmentation du volume de l'encéphale. Donc les paranthropes, eux, ils ne pouvaient pas refroidir leur encéphale de manière optimale, donc leur encéphale n'a pas pu augmenter de taille. Homo, grâce à tous ses foramen émissaires, a pu refroidir l'encéphale et donc a pu développer cette encéphale de grande taille que nous possédons aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle donc la théorie du radiateur, radiator theory en anglais. Et ici, vous avez Dean Falk, c'est elle qui a proposé cette théorie. C'est avec Ralph Holloway, que je vous ai montré tout à l'heure, l'autre grande spécialiste de paléoneurologie des hominidés. Et ici, c'est pour vous montrer ce graphe. Donc, vous voyez ici en rouge, c'est l'augmentation de la taille de l'encéphale chez Homo, et corrélé à cette augmentation de taille de l'encéphale, vous avez ici en bleu et ici en vert une augmentation de la fréquence des foramen émissaires. Donc les deux sont bien corrélés, donc cette théorie semble assez solide. Donc la différence de taille de l'encéphale entre paranthropes et Homo s'explique par une différence du drainage crânien. Alors jusqu'ici, je vous ai parlé des augmentations de taille de l'encéphale chez Homo. Il faudrait ajouter un petit bémol, puisque Homo floresiensis, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, c'est un hominidé assez récent, 18 000 ans, qui a été retrouvé à Flores, en Indonésie, sur une petite île. Et lui, il a un encéphale très petit, à peu près 400 cm3, donc dans la même gamme de variations que les Australopithèques graciles et les Australopithèques robustes. Et pourtant, il est beaucoup plus récent. Vraisemblablement, ce serait une forme qui aurait développé ce qu'on appelle le nanisme insulaire, c'est-à-dire que l'ensemble de son squelette aurait été réduit suite à son isolement sur cette petite île, et son encéphale également aurait été réduit. Et donc, chez lui, contrairement à ce que je vous ai dit jusque-là, on n'a pas eu une augmentation de la taille de l'encéphale, mais une réduction de la taille de l'encéphale. Donc, le schéma que je vous ai montré tout à l'heure est un peu plus compliqué que ça, puisque vous voyez, si j'ajoute ici Flores, on n'a pas uniquement cette augmentation chez Homo, mais on a également eu ici une diminution de la taille de l'encéphale. Excusez-moi. Il a des foramen émissaires, comme tout le genre Homo, quoi. Pas de sinus marginal, donc c'est cohérent avec la théorie du radiateur. Donc jusque là, je vous ai parlé de la taille de l'encéphale. Maintenant, je vais vous parler de la réorganisation neurale. Alors, ce qu'on appelle réorganisation neurale, c'est tout ce qui concerne les changements de forme de l'encéphale ou la taille des différentes parties de l'encéphale les unes par rapport aux autres. Jusque-là, je vous ai parlé d'une augmentation de taille globale. Là, ça va être les différentes parties les unes par rapport aux autres. On va commencer par le cervelet. Le cervelet, c'est ce qui est ici, sous le cerveau. Et tout d'abord, chez des spécimens actuels, donc là, je ne parle pas de fossiles, je parle uniquement d'actuels et de tissus mous, donc du cerveau et du cervelet. Et ce que certains chercheurs ont constaté, c'est que les humains, c'est les ronds blancs que vous avez sur ce graphe. En abscisse, vous avez le volume du cerveau et en ordonnée, le volume du cervelet. Et les humains, ils se situent sous la droite de régression, la droite qui passe par les grands singes actuels. Alors les grands singes actuels, c'est les croix que vous avez là. Grands singes actuels, c'est donc chimpanzés, gorilles, orang-outans. Et donc, la taille relative du cervelet chez les humains est plus petite que chez les grands singes actuels. Alors, bien sûr, j'ai dit un relatif. En taille absolue, bien sûr, notre cervelet est plus gros, mais par rapport à la taille de notre cerveau, on a un cervelet plus petit que chez les grands singes actuels. Ça a été étudié sur des tissus actuels, sur des tissus mous. On peut également l'étudier sur des tissus durs, donc qui va permettre d'inclure des fossiles. Donc ici, vous avez un moulage endocrânien actuel, mais peu importe, on peut faire la même chose chez le fossile. On peut découper l'arrière de ce moulage endocrânien qui correspond au cervelet, ce que je vous montre ici. Et ensuite, on va mesurer ce volume et on va comparer ce volume par rapport au volume du reste qui correspond au cerveau. Et on retrouve la même chose que ce qu'on observe sur les tissus mous, donc c'est rassurant. On a ici la droite qui passe par l'ensemble des grands singes actuels et vous avez ici en jaune les humains modernes qui se trouvent sous cette droite, donc qui ont un cervelet relativement plus petit, puisqu'ils sont sous la droite. Les carrés noirs, ce sont quelques fossiles que j'ai pu inclure. Ici, ce sont des australopithèques qui se trouvent parmi les grands singes. Ici, c'est un humain, donc du genre Homo, fossile. Et donc, on retrouve on voit que c'est à partir du genre Homo. Là, je vous ai mis que trois fossiles, mais on peut le faire sur plus de spécimens. Et en fait, c'est à partir du genre Homo que le cervelet commence à diminuer en taille relative. Donc ça montre qu'au cours de l'évolution de l'encéphale chez le genre Homo, la taille globale de l'encéphale a augmenté, mais c'est surtout le cerveau qui a augmenté de taille, pas le cervelet, c'est surtout le cerveau. Le cervelet a augmenté aussi, mais de manière moins importante. Ce qui fait qu'actuellement, on a donc, par rapport à nos cousins, les grands singes, on a un cervelet de plus petite taille relative. Un autre exemple de réorganisation neurale, ce sont les asymétries. Les asymétries, on appelle ça aussi des pétalia. Alors, qu'est-ce que c'est une pétalia? C'est quand on regarde, ici, vous avez un cerveau actuel en vue inférieure, vue de dessous. Ici, vous avez l'avant, ici, vous avez l'arrière. Et on voit ici donc les deux lobes frontaux, ici un lobe, ici le lobe symétrique. Et vous voyez que le lobe frontal droit est davantage développé que le lobe frontal gauche. Donc là, on va dire on a une pétalia frontale droite. Et inversement, ici, au niveau des lobes occipitaux, à l'arrière, vous avez le lobe occipital gauche qui est davantage développé que le lobe occipital droit. Donc on a une pétalia occipitale gauche. Et cette association d'une pétalia frontale droite avec une pétalia occipitale gauche, c'est généralement caractéristique des individus droitiers. Et inversement, si on avait un développement plus important ici et un développement plus important là, on pourrait dire qu'on a très probablement un individu gaucher. Donc c'est lié à la latéralisation manuelle. Chez les fossiles, sur les moulages endocraniens, donc là vous avez un moulage endocranien en vue inférieure, on peut observer ces pétalia, ces asymétries. Ici vous voyez notamment une pétalia occipitale gauche, très importante. Ici, c'est un peu moins clair, mais si on avait le fossile dans les mains, on s'en rendrait davantage compte. Vous avez une pétalia frontale droite, donc ce spécimen, qui est un spécimen de néandertalien, était très probablement droitier. Et ces pétalia, on les retrouve à partir véritablement du genre Homo et pas chez les australopithèques. Un autre caractère de réorganisation neurale, c'est la réduction de l'aire visuelle primaire. Chez les grands singes actuels et chez l'homme aussi, cette aire visuelle primaire qu'on trouve ici dans le lobe occipital. Donc ici, vous avez un cerveau de chimpanzé en vue latérale. Ici, vous avez l'arrière. Ici, vous avez l'avant. Et ici, donc à l'arrière, dans le lobe occipital, on trouve donc ce que je vous ai appelé l'aire visuelle primaire, qui est limitée ici par un sillon qu'on appelle le sulcus lunatus. Donc c'est un sillon. Chez tous les grands singes actuels, on va retrouver quelque chose de ce type. Chez les humains, ce sillon il est situé beaucoup plus postérieurement, c'est-à-dire qu'on a eu une réduction de toute cette aire visuelle primaire vers l'arrière. Elle a été totalement réduite. Et alors, chez les fossiles, chez les australopithèques notamment, qu'est-ce qu'on observe ? Donc ici, on est en vue postérieure, donc vue de derrière. On voit des demi-cerveaux. À gauche, un demi-encéphale. À gauche, vous avez un demi-encéphale de chimpanzé, et à droite, le moulage endocrânien d'un Australopithecus africanus. Ici, chez le chimpanzé, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure en vue latérale, c'est le sulcus lunatus. Sur le moulage endocrânien de l'Australopithèque, ici, on retrouve un petit sillon en forme de croissant, et Ralph Holloway, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pense que ce sillon qu'on retrouve chez les Australopithèques, c'est le sulcus lunatus, et donc qu'il est situé dans une position, vous voyez, beaucoup plus postérieure. Ici, chez le chimpanzé, on est là. Ici, on est là. Donc, il pense que l'aire visuelle primaire des Australopithèques aurait été déjà réduite, repoussée vers l'arrière, et donc que les Australopithèques montreraient cette caractéristique de réorganisation neurale alors que leur cerveau n'a pas augmenté de volume. Ça, c'est la vision de Ralph Holloway. Dean Falk, elle, qui est l'autre spécialiste des moulages endocrâniens, elle pense que ce sillon qu'on voit là, ben, ce n'est pas du tout le sulcus lunatus, mais c'est un autre sillon que vous voyez ici sur le cerveau du chimpanzé, qu'on appelle la scissure calcarine latérale. Et donc, d'après elle, le cerveau, l'encéphale des Australopithèques n'est pas du tout réorganisé, l'aire visuelle primaire n'est pas réduite, et donc on n'a pas eu de réorganisation neurale chez ces formes à petit encéphale. D'après Dean Falk, la réorganisation neurale a accompagné l'augmentation de taille de l'encéphale chez Homo. Donc c'est les deux visions de l'évolution de l'encéphale chez les hominidés, et ils ne sont toujours pas d'accord, quoi. Donc il y a encore du travail. Un autre exemple de réorganisation neurale, c'est l'expansion du lobe temporal. Donc là, c'est comme le graphe que je vous ai montré tout à l'heure, c'est chez les actuels, sur des cerveaux actuels. Vous voyez ici la droite qui correspond au grand singe. Ici, dans l'ellipse, les humains. Et vous voyez que nous nous situons au-dessus de la droite, ce qui veut dire que nous avons un lobe temporal relativement plus développé que les grands singes actuels. Et ça, on va l'observer sur les moulages endocrâniens de spécimens fossiles. À gauche, un Australopithèque, vous voyez que là, on est en vue de dessous, hein, en vue inférieure. L'avant est là, l'arrière est là. Et vous voyez que là, on n'a pas d'expansion au niveau des lobes temporaux. Chez Homo, ici un spécimen d'Homo erectus de Chine, vous voyez que là, par contre, on a eu une forte expansion latérale au niveau des lobes temporaux. Ce qui confirme ce qu'on retrouve chez les spécimens actuels, avec un genre Homo nous, les humains actuels, qui avons des lobes temporaux plus gros que nos cousins, les grands singes. Et enfin, j'aimerais bien vous parler un petit peu du lobe frontal, puisqu'on peut lire dans de nombreux ouvrages que le lobe frontal des homos est davantage développé que chez nos cousins les grands singes, ce qui est totalement faux, puisque vous voyez qu'on se trouve exactement sur la même droite, nous les humains, ici les grands singes actuels. Donc relativement, on a des lobes frontaux, relativement à la taille globale de l'encéphale, de même dimension que les grands singes actuels. on n'a pas des lobes frontaux plus gros. Mais ce qu'on peut observer quand même au niveau des lobes frontaux, c'est des différences d'organisation. Chez tous les grands singes actuels, vous avez, alors on ne voit pas très bien ici, mais un sillon qui part de l'extrémité du lobe temporal, qui se poursuit sur le lobe frontal, et qu'on appelle le sillon fronto-orbitaire. Ce sillon, on va le retrouver sur les moulages endocraniens des australopithèques. Par contre, chez Homo, fossile ou actuel, on ne va pas retrouver ce sillon fronto-orbitaire, mais on va avoir ici ce qu'on appelle un cap de Broca, donc ici en vue latérale, chez un humain actuel, un moulage endocrânien, ici en vue antérieure, chez un homme fossile. Et ce cap de Broca joue un rôle dans la production du langage articulé. Donc vraisemblablement, c'est une supposition, mais si on se base là-dessus, le langage articulé aurait pu apparaître dès l'apparition du genre Homo, puisque les premiers fossiles du genre Homo montrent ce cap de Broca et ne montrent pas du tout ce sillon fronto-orbitaire qu'on retrouve chez les australopithèques et chez les grands singes actuels. Un autre exemple de réorganisation dans le lobe frontal, alors cette fois-ci on ne peut pas le voir sur les fossiles, mais on l'observe dans l'actuel, ça se passe au niveau de l'aire numéro 10. Alors qu'est-ce que c'est l'aire numéro 10? Toutes ces aires là qui sont numérotées sur ce dessin, donc c'est un dessin de cerveau humain en vue latérale, en fait ce sont des aires qui sont définies à partir de l'organisation des neurones dans le cortex cérébral. Donc c'est au niveau microscopique, on peut voir des différences de structure de l'arrangement des neurones dans le cortex. Et on peut définir, alors ça a été fait il y a très longtemps, au début du XXe siècle, par Brodmann. Il a défini des aires cérébrales qui, grossièrement, correspondent à différentes fonctions. Chaque aire a une fonction particulière. Et donc, dans cette aire numéro 10, déjà, on peut mesurer son volume, et on voit que chez les humains, elle a un volume beaucoup plus important que chez nos cousins les grands singes. Ça, c'est la première chose. En volume absolu, c'est les histogrammes, mais aussi en volume relatif. Donc le volume relatif, c'est figuré ici par les carrés noirs, puisque vous voyez que le volume relatif de l'aire numéro 10 chez les humains, c'est à peu près 1,2% de la taille du cerveau. Chez les grands singes actuels, on ne dépasse pas 0,8%. Donc on observe dans l'actuel un développement de l'aire numéro 10 plus important chez les humains que chez les grands singes. Et si on regarde au niveau microscopique, on observe aussi des différences d'organisation cellulaire. Puisque chez les humains, tous les points noirs que vous avez là, ce sont des neurones. Et vous voyez que les neurones sont beaucoup plus espacés entre eux que chez le chimpanzé, par exemple. Alors, il y a des hypothèses qui ont été émises, et notamment que cet espacement plus important des neurones dans l'aire numéro 10 chez les humains pourrait permettre davantage de connexions entre ces neurones. On a davantage d'espace pour établir des connexions, et que c'est ces connexions qui permettraient de traiter davantage d'informations. Donc, c'est une hypothèse. Donc vous voyez que il n'y a pas uniquement les moulages endocraniens, également avec des spécimens actuels, on peut observer des choses, des différences entre humains et nos cousins les grands singes. Donc vraisemblablement, au cours de l'évolution, notre aire numéro 10, elle s'est développée et les neurones se sont espacés. Et enfin, il y a une autre forme de réorganisation des lobes frontaux qui a été supposée. Si on regarde chez un paranthrope ici, un australopithèque robuste, et ici chez un australopithèque gracile, on voit que là on est en vue supérieure. On voit deux moulages endocraniens en vue supérieure. Et on voit ici que la forme, c'est plus pointu chez le paranthrope et c'est plus carré, plus quadratique chez l'australopithèque gracile. Ça ressemblerait plus à ce qu'on retrouve chez les grands singes actuels, et ça ressemblerait plus à ce qu'on retrouve chez les humains. Mais bon, il y a une grande variabilité. Mais il y a certains auteurs qui ont proposé que les Australopithèques graciles étaient déjà réorganisés au niveau de leurs lobes frontaux, puisqu'ils avaient déjà une forme plus carrée, alors que les Australopithèques robustes seraient plus primitifs, car leur forme serait plus pointue. Le problème avec ces interprétations, c'est que si on replace ici sur ce dessin les Australopithèques graciles et les paranthropes, ils se placeraient environ à cet endroit-là. En ordonnée, là, vous mettez le temps, et là, on est vers 3 millions d'années, donc ils se replacent là. On se base sur des comparaisons avec des spécimens actuels. Le problème, c'est que ces spécimens actuels de grands singes, ils ont également suivi leur propre évolution. Chacun a évolué à sa manière. Et ce qu'il faudrait pour savoir si Australopithecus africanus est réorganisé et Paranthropus est primitif, il faudrait avoir des fossiles ici plus anciens pour savoir quelle était la morphologie de l'encéphale avant. Là, pour l'instant, on n'a rien avant. Donc, ce n'est pas suffisant. Il faudrait des fossiles plus anciens. Et c'est ce que j'ai eu la chance de faire pendant ma thèse. J'ai travaillé sur Toumaï, qui, lui, est à 7 millions d'années, donc beaucoup plus ancien. Je vais commencer par vous faire quelques petits rappels sur Toumaï. Le nom d'espèce, c'est Sahelanthropus tchadensis. Il a été découvert en 2001 par la mission paléoanthropologique franco-tchadienne dirigée par le professeur Brunet. Il a été découvert au Tchad, dans le désert du Djourab, et plus précisément dans l'aire fossilifère de Toros Menala, qui est marqué ici par le petit point rouge. Et il a été daté à 7 millions d'années. C'est donc actuellement le plus ancien hominidé que l'on connaisse. Alors pourquoi on n'a pas fait un moulage endocrânien artificiel, comme je vous ai montré au début, en injectant tout simplement du silicone par le foramen magnum? On attend que ça sèche, on retire la pellicule toujours par le foramen magnum et on obtient un moulage endocrânien artificiel. On n'a pas pu faire ça sur Toumaï parce que son crâne est rempli de sédiments. Si vous voulez mettre votre doigt dans le foramen magnum, là, vous verrez que vous ne pouvez pas. Vous êtes très vite arrêté parce que il y a du sédiment complètement consolidé qui a rempli l'intérieur du crâne. Alors grâce aux techniques de scan, on a pu avoir accès à l'intérieur du crâne virtuellement. Pour le crâne de Toumaï, on n'a pas utilisé un scanner classique. On a utilisé le synchrotron, ce qu'on appelle un synchrotron. C'est l'immense appareil que vous voyez là. Donc c'est vraiment très grand. Hein. Je pense que ce qu'on voit là, ça doit être des véhicules sans doute. Ouais, c'est un parking. Donc vous voyez, ça se trouve à Grenoble, c'est immense. Et le synchrotron, ça permet d'une part de mieux pénétrer les fossiles fortement minéralisés comme Toumaï. Avec un scanner classique, on ne pourrait pas voir l'intérieur de Toumaï. Avec un synchrotron, on va pouvoir faire pénétrer les rayons dans le crâne et donc voir l'intérieur. On va pouvoir avoir un bon contraste entre des structures selon qu'elles sont plus ou moins minéralisées. On va pouvoir bien les observer sur l'écran de l'ordinateur. Et le synchrotron permet également une bonne résolution, donc une bonne précision, puisque pour le crâne de Toumaï, on va avoir une précision d'un vingtième de millimètre, alors qu'avec un scanner classique, on arrive à un demi millimètre. Donc là, on est vraiment beaucoup plus précis. Alors comme je vous ai montré au début, on va pouvoir déjà obtenir une reconstitution tridimensionnelle virtuelle du crâne, ici. Et puis, on va pouvoir faire des coupes, des tranches dans ce crâne, dans les trois directions. Donc on va pouvoir se balader de droite à gauche, de haut en bas ou d'avant en arrière. Et on va pouvoir observer toutes les structures internes du crâne de Toumaï. Ici, vous avez une coupe coronale dans ce crâne. Donc c'est une coupe comme ceci. On coupe comme ça et puis on regarde ce qu'on voit à l'intérieur. Alors on retrouve ce dont je vous ai parlé au début, les deux tables osseuses, table externe, table interne, Et nous, ce qu'on va vouloir obtenir chez Toumaï pour avoir le moulage endocrânien, en fait, c'est un moulage de la table interne, un moulage virtuel de cette table interne. Et vous voyez ici qu'on a non pas seulement les deux tables, mais on voit quatre couches osseuses. Alors en réalité, c'est qu'on a, dans cette zone, on a un chevauchement, c'est-à-dire qu'on a une table externe et une table interne qui vont chevaucher un autre fragment osseux qui lui aussi est composé d'une table externe et d'une table interne. Alors la première étape de mon travail de thèse, ça a été d'extraire uniquement les fragments de table interne pour pouvoir ensuite prendre le moulage endocrânien de cette table interne. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que chez Toumaï, toute cette table interne, elle a été décollée donc lors de la fossilisation, après la mort de Toumaï. La table interne s'est décollée de la table externe, elle s'est fragmentée. Donc véritablement, on a dans ce crâne un vrai puzzle. Et l'objectif, ça a été de remettre tous les fragments en place, quoi. Mais d'abord, la première étape, ce qu'on appelle la segmentation de la table interne, c'est-à-dire son extraction virtuelle hors du sédiment. Tout ce que vous avez en rouge là, ce sont des petits fragments de table interne que j'ai sélectionnés. Là, vous voyez ça sur une coupe. Moi, je l'ai fait sur toutes les coupes du crâne, plus de 1000 coupes au total. Et la seconde étape, une fois que j'ai pu faire ça sur toutes les coupes, j'ai pu extraire tous les petits fragments de table interne. C'est ce que vous voyez ici dans le crâne, ce qui est en couleur. Et l'étape suivante, ça a été l'étape de rétro-déformation, donc, c'est-à-dire remettre tous ces petits fragments en place, en 3D. Et pour ça, j'ai appliqué les mêmes rétro-déformations que celles qui avaient été appliquées pour le crâne externe. Vous savez que le crâne externe de Toumaï, il avait déjà été rétro-déformé par une équipe de Zurich. Et je me suis appuyé sur leur rétro-déformation pour, moi, rétro-déformer l'intérieur du crâne, donc le moulage endocrânien de Toumaï. À droite, vous avez tous ces fragments après rétro-déformation. Et il reste encore une étape à accomplir si on veut vraiment obtenir le moulage endocrânien de Toumaï. Cette étape, c'est le remplissage des lacunes, puisque vous voyez qu'il y a de nombreux trous, c'est-à-dire de nombreux endroits où la table interne n'était pas présente, elle manquait. Et si on veut obtenir quelque chose de fermé, il faut reboucher les trous. C'est la dernière étape. C'est ce que vous voyez sur cette image. En rouge, vous avez le moulage endocrânien de Toumaï, le plus vieux moulage endocrânien d'hominidé qu'on possède à ce jour, puisqu'il est beaucoup plus vieux que tout ce qu'on a, il est à 7 millions d'années. Pour l'instant, tout ce qu'on sait de l'encéphale des hominidés, ça ne dépasse pas les 3 millions d'années. Donc là, c'est intéressant parce qu'on va vraiment voir ce qui se passe avant. Pour l'instant, je ne vais pas vous en montrer plus parce que l'étude n'est pas encore terminée et pas publiée. Mais très prochainement, j'espère que vous pourrez avoir d'autres informations sur ce moulage endocrânien qui donc va éclairer les premiers stades d'évolution de l'encéphale des hominidés. Alors, il y a d'autres spécimens qui sont actuellement en cours d'étude. C'est deux spécimens que je vous ai montrés ici. Il y a tout d'abord l'enfant de Dikika, je vous en ai parlé au début. Son intérêt, donc, c'est d'une part qu'il est très ancien. Après Toumaï, c'est lui le plus ancien, 3,3 millions d'années. Et l'autre intérêt, c'est que c'est une forme juvénile. Alors c'est important parce qu'il va pouvoir nous donner des informations sur l'ontogénie. L'ontogénie, c'est-à-dire le développement et la croissance de l'encéphale chez les hominidés fossiles. Et on va pouvoir comparer l'ontogénie chez deux espèces différentes, chez Australopithecus afarensis d'Afrique de l'Est, c'est-à-dire l'espèce à laquelle appartient ce spécimen, et chez Africanus d'Afrique du Sud. On va pouvoir comparer ce spécimen avec l'enfant de Tong, vous savez, celui-ci. Donc ça, c'est très intéressant du point de vue ontogénétique. Et un autre spécimen, ce spécimen, il est en cours d'étude par Dean Falk, la spécialiste internationale que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc il devrait être prochainement publié. Un autre spécimen qui est également en cours d'étude, c'est le moulage endocrânien de 7 australopithèques. Cet australopithèque, il a été décrit très récemment, peut-être que vous en avez entendu parler. Ils en ont parlé au journal télévisé, notamment, je me rappelle de ça. Il est daté entre 1,8 et 2 millions d'années. Il vient d'Afrique du Sud. Et ces découvreurs ont voulu en faire une sorte de fossile intermédiaire entre les australopithèques plus anciens et le genre Homo. Ça, c'est très, très discuté. Ce qui est sûr, c'est que son âge, lui, est bien intermédiaire. Alors, j'ai pu observer le moulage endocrânien de ce spécimen récemment à Zurich, et j'ai vu qu'il avait un sillon fronto-orbitaire et pas de cap de Broca. Donc, il ressemble plutôt à un australopithèque qu'à un humain. Donc, son attribution au genre Australopithecus, je pense, est correcte. Après, est-ce que c'est un prédécesseur des Homo ? Ça, c'est discutable. Donc, en conclusion, je vous ai montré donc que le moulage endocrânien, c'était le seul moyen de reconstituer la morphologie de l'encéphale des hominidés fossiles. Il n'y a pas d'autre façon. Donc, même si on ne peut pas voir grand-chose sur un moulage endocrânien, ben, c'est la seule manière de retracer l'évolution de l'encéphale. La paléoneurologie, on ne peut pas la dissocier des neurosciences. Elle fait partie des neurosciences. Si on n'a pas de connaissances sur les sciences de l'encéphale des spécimens actuels, on ne peut pas interpréter les moulages endocrâniens fossiles. Donc les deux sont vraiment intimement liés. Chez le genre Homo, se produisent de nombreuses modifications évolutives. Tout d'abord, une augmentation de la taille de l'encéphale depuis 2 millions d'années. Attention, il y a des exceptions, l'homme de Flores par exemple. Un ensemble de réorganisations neurales, dont la diminution de la taille relative du cervelet, l'accentuation des asymétries en lien avec la latéralisation, la réduction de l'aire primaire, l'expansion du lobe temporal ou encore l'apparition du cap de Broca impliqué dans le langage. Ça, c'est chez Homo. Avant Homo, donc chez les australopithèques, là, c'est plus discutable. Pour moi, on ne voit pas de marque claire de réorganisation neurale. Alors, il y a peut-être une réduction de l'aire visuelle primaire, vous savez, avec ce sulcus lunatus qui serait plus postérieur, mais c'est discuté. Il y a peut-être une réorganisation du lobe frontal avec un lobe frontal de forme plus carrée en vue supérieure, mais en l'absence de fossiles plus anciens, je pense qu'on ne peut pas vraiment déterminer des signes de réorganisation neurale chez les australopithèques. Donc je pense que la réorganisation neurale, elle a accompagné l'augmentation de taille du cerveau chez Homo, du moins jusqu'à preuve formelle du contraire. Et donc, pour avoir davantage d'informations sur l'évolution de l'encéphale des australopithèques, il faudrait, d'une part, essayer de mieux comprendre les relations entre l'encéphale et les structures dures qui englobent l'encéphale, donc le crâne, le moulage endocrânien. D'abord, essayer de mieux comprendre ça chez les spécimens actuels. Ça pourrait permettre de mieux interpréter les sillons qu'on observe sur les moulages endocrâniens. Et puis, et ça, le professeur Brunet vous en parle souvent, il faudrait davantage de fossiles, notamment des fossiles plus anciens. Et pour ça, le seul moyen, c'est d'aller les chercher sur le terrain. Je vous remercie.